Laudetur Jesus Christus.
Nouvelle nuit de manifestation à travers les États-Unis. La colère provoquée par la mort lundi dernier d'un Afro-Américain ne retombe pas, malgré l'inculpation hier du policier responsable du décès de George Floyd. Cette nuit, les évêques américains ont dénoncé le danger du racisme dans un message extrêmement fort. On y revient dès le début de ce journal. Annonce en cascade, Donald Trump, le président américain, rompt les relations de son pays avec l'Organisation mondiale de la santé, qui se voit privée de son principal bailleur de fonds. Les États-Unis qui veulent aussi mettre fin au statut d'exception de Hong Kong. Nous irons à Londres pour voir comment se positionne le gouvernement de Boris Johnson sur cette question. La pandémie de Covid-19 a mis les industries du monde à l'arrêt ainsi que la consommation. Les économies sont en berne. L'Inde enregistre sa plus faible croissance en 20 ans et pourrait entrer en récession. Et puis enfin dans notre dossier, nous irons au Liban. L'enseignement catholique est à risque. Nous en parlons avec le recteur de l'université Saint-Joseph.
Radio Vatican, le journal. Marie Duhamel.
Bonjour à tous. Aux États-Unis, la colère après la mort de George Floyd s'est propagée à travers le pays. Des milliers d'Américains ont ainsi manifesté cette nuit devant la Maison-Blanche, à Washington, mais aussi à New York, Dallas, Houston, Des Moines et toujours à Minneapolis, là où cet Afro-Américain de 46 ans a été tué lundi dernier des suites d'une interpellation violente. La scène a été filmée, la vidéo est devenue virale et finalement, hier soir, le policier responsable de la mort de cet Afro-Américain a été interpellé et inculpé pour homicide involontaire. Cette nuit, les évêques américains ont à leur tour pris la parole pour condamner toute forme de racisme dans une déclaration très forte. Ils s'indignent du climat de discrimination et de violence qui vise certains membres de la population noire, appellent à retrouver l'unité dans un pays fracturé par les divisions. Olivier Bonnel.
Nous avons le cœur brisé, nous sommes malades et outrés de voir une autre vidéo d'un Afro-Américain tué sous nos yeux, commencent les évêques en faisant référence à la mort de George Floyd. Le racisme, poursuivent-ils dans ce message très fort, n'est pas une chose du passé ou simplement une question politique qui doit être débattue quand cela convient. C'est un danger réel et actuel qu'il faut affronter de face. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ces atrocités tout en continuant à prétendre respecter chaque vie humaine, écrivent encore les évêques américains. Nous servons un Dieu d'amour, de miséricorde et de justice. Il y a 18 mois, l'épiscopat des États-Unis avait rédigé « Ouvrez grand vos cœurs », une lettre pastorale contre le racisme. Ils y rappellent aujourd'hui l'une de ses grandes lignes « On ne doit jamais fermer les yeux lorsque des citoyens sont privés de leur dignité humaine, encore plus de leur vie ». Dans leur message, les évêques prient pour le repos de l'âme de George Floyd. Ils invitent également au calme après les émeutes et prient pour la paix à travers les États-Unis, en particulier dans l'État du Minnesota. Enfin, à la veille de la Pentecôte, ils invitent tous les catholiques à prier et à œuvrer pour une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, pour que l'Esprit de vérité touche le cœur de tous aux États-Unis.
Olivier Bonnel, après les menaces de Donald Trump, il passe aux actes. Le président américain met fin aux relations de son pays avec l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS accusée de complaisance vis-à-vis de Pékin en ce temps de pandémie. L'organisation onusienne se voit donc privée des fonds de son premier contributeur, 450 millions de dollars, 10 fois plus que les versements chinois, qui pourraient maintenant augmenter. Et puis hier soir, autre déclaration de Donald Trump dans un climat explosif, donc avec Pékin. Parce que le régime chinois, ne respecte pas, dit-il, l'autonomie de Hong Kong. Son administration, l'administration américaine, veut mettre fin aux exemptions accordées à l'ancienne colonie britannique. Et comme les États-Unis, les Britanniques dénoncent depuis plusieurs jours la loi controversée sur la sécurité nationale que Pékin veut imposer à Hong Kong, Londres a demandé hier soir aux Chinois de prendre en compte les inquiétudes légitimes des Hongkongais. C'était il y a quelques heures lors d'une réunion informelle au Conseil de sécurité de l'ONU, Londres qui a du mal à se positionner, la Chine étant un partenaire économique essentiel après le Brexit. Jean Jaffré.
Certes, le Royaume-Uni a une obligation morale en tant que signataire de l'accord de rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Cet accord prévoit un statut de semi-autonomie selon le principe « un pays, deux systèmes ». Selon l'ambassadeur du Royaume-Uni à l'ONU, la nouvelle loi sur la sécurité risque de restreindre les libertés que la Chine s'est engagée à respecter en vertu du droit international. Le projet de loi prévoit que les activités indépendantistes, terroristes et subversives seront sévèrement punies. En privé, l'ambassadeur de Sa Majesté pourrait faire pression pour que les États-Unis retirent à Hong Kong le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée, qui plongerait davantage le territoire dans la récession après des mois de violentes manifestations. Toutefois, Londres a provoqué la colère de Pékin américain en annonçant un assouplissement des conditions de séjour au Royaume-Uni aux 350 000 Hongkongais détenteurs d'un passeport britannique outre-mer. Cependant, Boris Johnson ne s'engagera pas dans une guerre de confrontation commerciale avec la Chine aux côtés du président Trump. Le gouvernement compte bien, après le Brexit, développer ses exportations vers la Chine, qui est le premier investisseur au Royaume-Uni. L'annonce cette semaine que la part du géant des télécommunications Huawei dans la construction du réseau de la 5G devra être réduite de 35% à zéro d'ici 2023 en est l'illustration. Long Jean Jaffray, Radio Vatican.
La justice canadienne va poursuivre la procédure contre la directrice financière de Huawei, accusée par les États-Unis d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran. Meng Wanzhou avait été arrêtée au Canada en 2018. Hier, Pékin a de nouveau exigé la libération immédiate de la dirigeante de Huawei. Au Canada, le PIB se contracte de 8,2% au premier trimestre 2020, sous l'effet de la baisse des dépenses des ménages et de l'arrêt de plusieurs secteurs d'activité en raison de la pandémie. Hier, les économies du monde entier ont publié leurs résultats du premier trimestre 2020. Comme prévu, les chiffres sont mauvais. En Inde, on parle de du pire résultat de ces 20 dernières années. Le produit intérieur brut n'a augmenté que de 3%. L'économie entrera en récession cette année. Emmanuel Derville.
Le recul de la croissance était attendu. Voilà plus d'un an que l'économie indienne a commencé à ralentir, faute d'investissement et d'une consommation en berne. Et le chiffre de la croissance du premier trimestre pourrait être revu à la baisse. Le confinement décrété fin mars a gêné la collecte des indicateurs économiques. Le gouvernement et la Banque centrale ont dévoilé des mesures de soutien en avril et en mai. Il s'agit surtout de prêts et de garanties bancaires plutôt que d'investissements ou de subventions en faveur des ménages pauvres. Les économistes et les milieux d'affaires demandent des initiatives plus fortes, quitte à aggraver le déficit budgétaire. La plupart des agences de notation estiment que le produit intérieur brut de l'Inde devrait chuter d'environ 5% cette année. L'étendue exacte de cette récession sera plus claire au deuxième trimestre. Le confinement a paralysé l'économie pendant tout le mois d'avril et une partie du mois de mai. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
En Europe aussi, la pandémie a des répercussions sur l'économie. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l'Italie et la France entrent en récession avec une chute de leur PIB de 5,3% au premier trimestre 2020. En Espagne, la pauvreté s'est aggravée avec la crise. Les demandes d'aide dans les soupes populaires ont bondi. Face à cette situation, le gouvernement vient d'approuver hier la création d'un revenu minimum vital. La correspondance de Louis Marsens.
Ce n'est pas le revenu universel dont il était question au départ, mais c'est déjà une immense avancée sociale. Ce revenu minimum vital a donc été fixé à 462 euros par mois pour un adulte vivant seul. Les familles toucheront 139 euros mensuels pour chaque personne supplémentaire, adulte ou enfant, avec un plafond fixé à 1015 euros par foyer. Selon le gouvernement espagnol, 850 000 foyers bénéficieront donc de cette nouvelle prestation, soit 2,3 millions de personnes dans le pays. À l'instar du RSA en France, ce revenu sera compatible avec d'autres. Si une personne a un salaire faible, l'État lui versera un complément lui permettant d'atteindre le niveau du revenu minimum vital. Promesse du gouvernement de gauche de coalition, ce revenu était devenu une urgence alors que la pauvreté progresse à toute vitesse. Le brutal coup d'arrêt à l'économie provoqué par le confinement a mis des centaines de milliers de personnes au chômage et pour la première fois de leur vie, de nombreuses familles doivent faire la queue pour obtenir de la nourriture, notamment à Madrid et à Barcelone. Le revenu minimum vital coûtera 3 milliards d'euros par an. Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican.
Une prière pour demander la protection de la Vierge Marie face à la pandémie. En liaison avec des sanctuaires mariaux à travers le monde, le pape François priera le chapelet cet après-midi à partir de 17h30 depuis la grotte de Lourdes, celle reproduite dans les jardins du Vatican. Des médecins, des patients, infirmières réciteront le rosaire. Vous pourrez y prendre part en direct en vous connectant à notre page Facebook ou bien sûr en nous suivant sur notre site internet. Je vous rappelle notre adresse, www.vaticannews.va. Et puis ensuite, le président uruguayen Luis Paquel Pou se trouve en quarantaine après avoir été en contact avec un fonctionnaire qui a été testé positif au coronavirus. C'est ce qu'ont indiqué les services de la présidence dans un communiqué. Le Front populaire ivoirien, le FPI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, autorisé sous condition à quitter la Belgique où il était assigné à résidence. Eh bien, le FPI demande au président Ouattara, il l'appelle au dialogue pour que Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire.
Vous êtes parent ? Profitez du confinement pour apprendre à votre enfant à identifier les contenus mensongers et les rumeurs. Sur Internet, trouvez une information confirmée comme fausse et posez à votre enfant ces questions. Qui est à l'origine de cette information? À qui est-elle destinée? Provient-elle d'une source fiable? Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO.
Au Liban, en pleine crise économique, l'urgence sanitaire liée au Covid-19 a plongé de nombreuses familles dans la précarité. Elles ne peuvent plus, pour certaines, couvrir les frais de scolarité. Malgré leurs difficultés financières, les établissements scolaires catholiques essayent de trouver des solutions pour leur venir en aide, aux familles notamment les plus fragiles, au risque quelquefois de leur pérennité. Jusque 80% des écoles catholiques au Liban pourraient ne pas rouvrir leurs portes à la rentrée. Mi-mai, le pape François annonçait une aide exceptionnelle pour financer sur place 400 bourses d'études. C'est donc logiquement que nous nous tournons vers Beyrouth ce matin. Nous en parlons avec le père Salim Georges Dakache, recteur de l'Université Saint-Joseph.
Depuis le 15 mars, nous sommes fermés sur décision de l'enseignement supérieur ici. Mais en tout cas, disons, si on replante, c'est pas disons, avec tout le monde, c'est avec 3500 à 4000 étudiants sur les 11000, 12000 qui sont chez nous. Donc voilà la situation où est-ce qu'on en est maintenant.
Ce qui veut dire que l'enseignement à distance, qui a été mis en place, je présume, après le 15 mars, va continuer encore pendant plusieurs mois.
Oui, peut-être qu'il va continuer. Nous l'avons mis en place depuis le 15 mars, justement. Donc la grande majorité des cours, peut-être 95 à 98% selon les institutions, ont été faits.
Il y a aussi, Père Dakache, très certainement et malheureusement aussi des conséquences économiques de cette crise. Oui, mais quel est l'impact économique pour votre université?
Tout à fait. L'impact est terrible du point de vue, disons, crise économique qui est en train d'impacter, disons, l'industrie et, disons, la vie économique en général. Nous, au niveau de l'université, on avait décidé de dire aux gens que le paiement ne se fait plus, disons, nécessairement 50% en libanais et 50% en devises étrangères, mais vous avez le choix de payer tout en libanais ou bien en partie. Et du coup, ça a libéré beaucoup de familles du souci d'aller chercher des dollars américains ou des euros afin de payer les scolarités de leurs enfants. Ils sont en train de payer en livres libanaise, mais au vu de la dévaluation de la livre qui a atteint les 4200 à peu près livres pour un dollar, c'est très problématique pour nous parce qu'on perd ainsi facilement 15 à 18% de nos rentrées pour une année. Et bon, jusqu'à maintenant, on a pu payer, disons, nos profs comme il faut. J'espère qu'à partir de septembre, parce que ce sera le dernier mois où on peut tout payer, si on n'a pas, disons, de renfort de rentrée après le 30 septembre et que la situation ou bien devient vraiment catastrophique, ou bien c'est difficile, disons, comme situation. On comptait sur les intérêts aussi pour donner des bourses parce que nous avons 40% de nos étudiants qui sont boursiers et cette proportion risque d'augmenter d'ici la fin de l'année parce que il y a des impayés, il y a des gens qui n'arrivent plus, disons, à payer leur scolarité, ce qui nous fera vraiment, disons, quelque chose comme 50% de boursiers. Donc c'est une situation hyper difficile. Nous essayons quand même de limiter tout ce qui est budget de fonctionnement. Nous n'allons pas, disons, recruter cette année. On est très attentif à cet aspect, mais il faut avoir aussi les moyens de sa politique. Espérons que, disons, les étudiants et leurs parents restent fidèles à l'université. Il y a un sentiment d'appartenance chez nous très fort à l'université. Mais la situation est telle qu'on ne sait pas comment les choses, disons, vont évoluer et dans quel sens.
Interrogé par Jean-Charles Puzelu, le père Dakache, recteur de l'Université Saint-Joseph, était l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Excellente journée.